les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Frédéric Géa, professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine, soulève la question suivante : à quoi sert le droit du travail ? Deuxième épisode : le droit du travail, un droit protecteur ?
Chers auditeurs d'Amicus Radio, nous poursuivons notre réflexion sur à quoi sert le droit du travail et une question s'impose d'emblée comme une sorte de départ obligé. Le droit du travail est-il un droit protecteur ? C'est un droit, il faut l'avoir présent à l'esprit, qui est traversé par les antinomies, par une sorte de tension dialogique au sens d'Edgar Morin. Celle-là même que véhicule la notion de travail. On aura l'occasion d'y revenir. Ces antinomies, Alain Supiot les a remarquablement mises en lumière dans Critique du droit du travail, entre la personne et la chose, entre le statut et le contrat, l'individuel et le collectif. C'est une idée un peu différente que traduit la thèse de l'ambivalence ou de la réversibilité du droit du travail. Antoine Jameau, Gérard Lioncan ont exprimé cette idée qui se décline sur un plan plus ou moins théorique, plus ou moins technique, mais l'idée selon laquelle le droit du travail n'a pas ou n'a plus un caractère unilatéral, qui n'est pas ou plus un droit progressiste. Alors, pour penser cette question, le droit du travail est-il un droit protecteur ? Je crois qu'il faut d'abord en revenir aux origines du droit du travail. Et certes, il y a débat sur le moment où notre droit du travail prend naissance. Différents prismes existent. Et certains vont mettre l'accent sur la reconnaissance de la liberté du travail. C'est le décret d'Allard des 2-17 mars 1791 qui proclamait aussi la liberté de commerce et de l'industrie. Mais qui, ne l'oublions pas, avait été suivi de la loi Le Chapelier du 14-17 juin 1791, qui, elle, interdisait tous les groupements professionnels et condamnait les corporations en même temps que toute espèce de coalition. Il faudra attendre la loi du 25 mai 1864 pour que soit supprimé ce délit de coalition. Est-ce que le droit du travail part de là ? Personnellement, j'en suis pas convaincu. Il me semble qu'il y a une seconde condition à la liberté du travail qui doit être consacrée pour que puisse émerger un droit du travail, c'est l'invention du collectif. Et ça, ce sera l'affaire de la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels. Il fallait bien ces deux conditions pour que puisse, à mon sens, émerger un authentique droit du travail. Il n'empêche que lorsque l'on analyse le moment où le droit du travail émerge, les lignes apparaissent relativement brouillées. Tout d'abord, c'est la portée de cette consécration de la liberté du travail qui peut être interrogée à l'aune de ce que fut le travail servile. Et si l'on regarde du côté de l'esclavage dans la cité athénienne classique, eh bien en réalité, les choses apparaissent plus compliquées que ce que laisse avoir une certaine représentation commune de l'esclavage. Pourquoi ? Parce qu'à côté du travailleur libre, qui peut travailler, qui a pu travailler, bien sûr, il y a des statuts de l'esclavage. Il y a d'abord l'exploitation directe, dans laquelle la jouissance des fruits du travail de l'esclave apparaît indissociable de la propriété portant sur l'intégralité de sa personne. Mais à côté de cette exploitation directe, il y a une gestion indirecte par laquelle le maître tirait un revenu ou une rente régulière du travail de son esclave, avec plusieurs formes possibles. L'une de ces formes consistait à louer son esclave à un libre pendant un certain temps, ou à placer un de ses esclaves à la tête d'une boutique ou d'un atelier, en échange de quoi le propriétaire lui recevait un revenu régulier, l'apophora, et l'esclave jouissait d'une certaine autonomie dans la conduite de l'établissement dans lequel il était passé. Il pouvait même en tirer profit. Par ailleurs, ce qui brouille les lignes, c'est la part prise par les travailleurs indépendants dans l'émergence d'un droit du travail. Ce sont des aspects qui ont bien été mis en avant par Claude Didry et par Sabine Rudischhauser. Le premier d'entre eux a notamment mis l'accent sur la place importante qu'avait le contrat, non pas de louage de service, mais à côté de celui-ci, le contrat de louage d'ouvrage ouvrant sur un marchandage réel généralisé, sur une forme de sous-traitance en cascade. Quant à Sabine Rüdighauser, elle a notamment mis en évidence le fait qu'un droit collectif avait pu émerger avec ces travailleurs indépendants. Première convention collective, on songe aux rubaniers de Saint-Étienne, on songe aux tisserands de Baptiste, sont l'œuvre non pas d'ouvriers, mais bien de travailleurs indépendants. Et quant aux actions collectives, il faut aussi songer aux canuts lyonnais. Donc la dimension collective s'est aussi constituée avec les travailleurs indépendants, alors même que le droit du travail va ensuite les délaisser en quelque sorte. Reste que ce qui pose problème et qui va justifier la construction d'un droit nouveau, c'est dans un cadre paradigmatique renouvelé, notamment avec la proclamation de la liberté du travail, c'est cette étrange figure contractuelle aux racines en réalité anciennes, par laquelle un travailleur va se placer sous l'ordre, sous l'autorité, sous le pouvoir d'une autre personne, va travailler mais sans être propriétaire du produit de son travail. Manière de louer, de se louer, ou de louer sa force de travail, en tout cas. Il y a une figure contractuelle qui est là, qui est ancienne, qui a été pensée par les juristes romains, c'est le contrat de louage de service, qui est une variété de louage de choses, et qui va constituer l'instrument pour tenter de penser ce rapport particulier. L'idée de subordination, comme celle de dépendance d'ailleurs à cette époque, va être mise en avant et on va chercher à caractériser de façon plus spécifique ce contrat. Et c'est comme ça que la dénomination de contrat de travail va progressivement émerger dans des thèses de doctorat à la fin du 19e siècle. Puis le législateur viendra à la consacrer d'abord en 1901 et puis progressivement. Il faudra attendre un certain nombre d'années pour que cette dénomination de contrat de travail chasse celle de louage de service, de contrat de louage de service. Ce qui fait sens, c'est le contexte dans lequel le droit du travail s'est constitué et cristallisé. Ce contexte, quel est-il ? C'est celui de la deuxième révolution industrielle, avec ces nouvelles organisations du travail, le taylorisme, le fordisme, qui génère un véritable bouleversement en réalité. Le taylorisme, avec ses divisions du travail verticales, on va distinguer la conception du travail et son exécution, avec sa division également horizontale du travail. Chaque ouvrier, chaque salarié va se voir assigner une tâche spécifique. Le fordisme, lui, va ajouter des éléments et va consacrer évidemment la forme du travail à la chaîne, dans l'automobile en particulier. Tout se recompose et on a là un authentique bouleversement et la technique demeure très présente et préside effectivement à la cadence du travail humain. Cette organisation nouvelle du travail, elle s'accompagne également d'un renouveau de l'entreprise et une entreprise dans laquelle les salariés forment une collectivité et un contrat de travail qui va même insérer les salariés dans cette collectivité au sein d'une organisation qui, telle que l'on pense l'entreprise à l'époque, est une organisation fondamentalement hiérarchisée. Alors, cette organisation du travail, cette seconde révolution industrielle, cette place du travailleur dans l'entreprise, eh bien, c'est celle évidemment que reflète le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, en 1936. Dans cette organisation du travail, les tâches sont standardisées, elles sont simplifiées, elles sont chronométrées. Il s'agit de minimiser au maximum les mouvements. Il s'agit de définir les cadences de travail. En réalité, dans cette organisation du travail, l'autonomie à proprement parler du travailleur est quasi inexistante. Il est véritablement subordonné. Et c'est ce contexte qui a conduit le droit du travail à véritablement se centrer sur le travail subordonné. Dans ces conditions, et au risque de prendre à rebours certaines conceptions, je dirais que oui, le droit du travail est né de l'idée de protection. Mais encore faut-il préciser ce qu'était l'objet de cette protection. Et là, à mon avis, les choses sont un peu moins évidentes. J'avancerai la thèse selon laquelle c'est le travail en tant que tel qui a fait l'objet d'une protection. Au sens où celui-ci était à la fois institué et encadré juridiquement. Et que cette protection a emprunté des formes diversifiées. Des formes diversifiées d'institutions du travail. Protection des travailleurs salariés, protection du corps, protection de la force du travail, de la force de travail, bien sûr. Mais protection aussi de l'intérêt collectif de ces salariés par le mécanisme de la représentation, par des mécanismes de représentation, par l'institution d'acteurs visant à représenter ces salariés. Ces considérations étant posées, il faut revenir sur un mythe. Un mythe qui, à mon avis, a pris fin. Quel est-il ? Il correspond à l'image, qui fut fortement ancrée pendant un temps, d'un droit du travail à caractère unilatéral, d'un droit du travail exclusivement protecteur. Ce mythe, il s'est nourri de l'idée d'un droit conquis sur les barricades. Alors, certes, il y eut la loi du 22 mars 1841, mais enfin, ce sont là les balbutiements d'un droit du travail qui se cherche. Les préoccupations qui sous-tendaient cette loi étaient d'ordre divers et l'armée elle-même avait demandé qu'une protection soit mise en place s'agissant de la durée du travail des enfants dans une perspective qui visait à préserver les forces armées en réalité. On n'était pas sur une logique exclusivement de protection des travailleurs. D'autres lois vont émerger de façon beaucoup plus significative, je laisse de côté la parenthèse de 1848, mais ces lois, elles interviennent dans la Troisième République, c'est la loi de 1892 sur le travail des femmes et des enfants, c'est la loi de 1893 sur l'hygiène et la sécurité, c'est la grande loi du 9 avril 1898 sur l'indemnisation des victimes d'accidents du travail, ou encore celle du 13 juillet 1906 généralisant le repos hebdomadaire. C'est là qu'on voit effectivement émerger des acquis parce que ces mesures sont effectivement la résultante de revendications des syndicats qui avaient pu se faire entendre une fois la liberté syndicale reconnue. Mais est-ce que cela autorise à affirmer que le droit du travail est le résultat de conquêtes ouvrières ? En réalité, les choses sont plus compliquées. Il y a évidemment des grandes étapes qui sont liées à des conquêtes ouvrières. Et 1936 et 1968 en sont, d'une façon ou d'une autre, des illustrations. Mais en réalité, nombre de réformes du droit du travail, et nombre d'avancées d'ailleurs du droit du travail, se sont faites dans un contexte beaucoup plus apaisé, indépendamment de ce type de revendications, indépendamment de mouvements à proprement parler. Alors cette présentation du droit du travail unilatéral progressiste a été remise en cause assez tôt en réalité. Des années 1970, cette représentation se trouve discutée, contestée. Je songe tout d'abord à la thèse que défendait Bernard Edelman, la thèse de la légalisation de la classe ouvrière. Son propos consistait à dire qu'en réalité le droit du travail était non pas un contre-droit au sein d'un ordre bourgeois, mais qu'il était bel et bien une construction de ce droit bourgeois que les salariés n'avaient pas grand-chose à en attendre. Et puis il y a eu la thèse à laquelle j'ai fait référence un peu plus tôt, de l'ambivalence fondamentale du droit du travail. L'idée que le droit du travail joue un rôle dans le système capitaliste. Nous aurons l'occasion de revenir de façon plus approfondie sur cette thèse particulière. Il n'empêche qu'en dépit de cette contestation qui me semble tout à fait cristallisée à la fin des années 1970, début des années 80, on a déjà intégré que le droit du travail n'était pas un droit qui empilait des garanties, qui empilait des avantages, mais qui pouvait effectivement s'engager dans d'autres directions. Il faut dire que la crise économique et les chocs pétroliers étaient déjà passés par là. Que la crise avait déjà frappé une certaine représentation du droit du travail, il n'empêche qu'en dépit de tout cela, eh bien, cet imaginaire d'un droit du travail protecteur, d'un droit qui va permettre de défendre véritablement les intérêts des salariés, des ouvriers, va demeurer, et demeure aujourd'hui encore, de façon diffuse, de façon latente chez beaucoup, y compris dans la littérature. Et on en trouve un bel exemple dans cet extrait du roman, du premier roman de Nicolas Mathieu, Aux animaux la guerre.
L'usine, c'était comme le reste. Beaucoup d'efforts et pas grand-chose à faire pour inverser le cours des choses. Et là, au beau milieu, ce point de fixation, cet espace où la guerre était possible. Sans doute pas à armes égales, mais où des résistances s'organisaient, où les patrons se sentaient menacés, prenaient des soufflantes à leur tour. Et cette chose toute nouvelle, abstraite et brutale, d'une force inimaginable, le droit. Il suffisait d'en connaître un bout, et les volontés adverses se brisaient net. Martel venait de découvrir les rapports de force. Avec deux articles du Code du travail, on érigeait des murs, on emmerdait le monde, c'était magnifique.
Le droit du travail se reconfigure, et se reconfigure de façon assez fondamentale depuis quelque temps. Les réformes se sont multipliées depuis 20 ans, depuis 30 ans. Le droit du rapport de travail, le droit de la rupture du contrat de travail s'est considérablement reconfiguré, notamment avec l'apparition de la rupture conventionnelle. La place du juge n'est plus la même. Le contentieux se tarie, des mesures sont prises pour circonscrire en réalité le rôle du juge. Ça ne veut pas dire que le rôle du juge disparaît, ça veut dire simplement qu'il se reconfigure. Je reprends cette formule qui se renouvelle en quelque sorte. Mais si on s'attache aux réformes les plus récentes, je pense à la loi du 8 août 2016 ou aux ordonnances du 22 septembre 2017 et leur suite, sans parler d'autres lois intervenues postérieurement, je dirais volontiers qu'il y a une alchimie qui se dessine, que cette alchimie, elle consiste à enchevêtrer deux types d'approches, alors avec des dosages divers, des équilibres différenciés selon les réformes, entre une forme de néolibéralisme, il faut bien appeler les choses par leur nom, et ce que l'on pourrait dénommer une forme de néolaborisme, une forme de néo-travaillisme. J'emprunte cette distinction à Adalberto Peroli, qui les a mises en avant dans son décryptage des évolutions du droit italien. On cherche effectivement à, d'un côté, traduire un certain modèle économique, sans doute, à libérer les entreprises, et on va là dans le sens de la flexibilité, mais d'un autre côté, on cherche, mais peut-être pas suffisamment, à penser le travail dans un cadre paradigmatique renouvelé. Celui de la globalisation, celui de ce que certains appellent la révolution numérique. C'est ce qui peut conduire d'ailleurs à consacrer une forme de droit des acteurs du travail. Il me semble que c'est un élément clé des réformes actuelles où le législateur effectivement se met en retrait sans perdre la main. Il garde la main sur la manière dont les choses s'agencent ou doivent être mises en scène, disons. Mais il laisse une plus grande part, sinon d'autonomie, en tout cas de latitude, aux acteurs du travail, et notamment aux acteurs du dialogue social. Et c'est en cela que je crois qu'on assiste à l'émergence d'un droit des acteurs du travail, en quelque sorte. Et bien c'est tout cela qui conduit à redéployer les fonctions et finalités de ce droit. Difficile, impossible même, de considérer que le droit du travail a pour fonction exclusive ou finalité spécifique la protection. D'autres fonctions, d'autres finalités vont s'y ajouter. Elles se combinent, elles interagissent même les unes avec les autres, et j'aurais tendance à dire qu'il y a d'un côté une fonction sociale, d'un autre côté une fonction économique, et probablement aussi, on aura l'occasion d'y revenir, une fonction sociétale. C'est cette fonction sociale que nous aborderons lors du prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.